La première, podcast.
Et oui, c'est le forum, la deuxième partie. Fabienne, vous allez maintenant parler des 25 ans du télescope Hubble.
Mais oui, le télescope qui fête son 25e anniversaire dans l'espace. Il a été lancé le 24 avril, donc demain, ce sera le jour anniversaire. 24 avril 90 par la navette Discovery. Nous allons en parler aussi de toutes les découvertes qu'a permises Hubble. Ce sera dans un instant. Et bien entendu, si vous avez des questions à nous poser sur ce télescope, sur les découvertes, sur l'univers, n'hésitez pas à nous faire partager vos questions et aussi vos commentaires dans le forum de ce midi. Et donc on rappelle peut-être le numéro de téléphone, c'est le 02 737 3707. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a la page Facebook, comme on a perdu le jingle, c'est pas grave, je fais tout moi-même. Je vous présente tout de suite nos invités. Gaël Cessateur est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes post-doctorant de l'Institut d'aéronomie spatiale. Et puis nous avons avec nous depuis Liège, Emmanuel Jehin. Bonjour Emmanuel Jehin.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au FNRS et chercheur à l'Institut d'astrophysique de l'Université de Liège. Alors, on vous a déjà, Emmanuel Jehin, reçu à plusieurs reprises et pour parler de TRAPPIST, un télescope également. Grande nouvelle, il se trouve dans le désert de l'Atacama, c'est au Chili, bien sûr. Et la grande nouvelle, c'est que vous allez installer un nouveau télescope jumeau. On peut en dire un mot avant de parler de Hubble, parce que télescope, même si c'est pas le même format, ni le même usage.
Oui, merci beaucoup.
Installation au Maroc à la fin de l'été pour un télescope jumeau de TRAPPIST.
Tout à fait, qui vient d'être financé par l'Université de Liège et qui va donc compléter par cet ajout d'un second télescope dans l'hémisphère nord et nous donner l'accès en fait à tout le ciel visible, celui de l'hémisphère sud depuis le Chili et celui de l'hémisphère nord depuis le Maroc, pour continuer de plus belle, si je puis dire, nos recherches qui à l'Université de Liège, avec mon collègue Michael Gillon et nos étudiants, consistent à étudier les exoplanètes et les comètes.
C'est ça. Alors, TRAPPIST donc existe depuis 5 ans. Fêtera son anniversaire, je pense, au mois de juin.
Oui.
Télescope qui vous appartient à l'Université de Liège, et c'est ça peut-être la grande le grand message à redire et à redonner, c'est que vous y avez accès à ces données en permanence, ce qui est la grande différence quand on doit évidemment partager les télescopes. On n'a que des sessions très courtes. Pour d'observation.
Absolument. Et c'était ça la caractéristique de ce projet. Pour nos recherches d'exoplanètes et nos recherches de comètes, nous avions besoin d'énormément de temps de télescopes. Et la meilleure idée, c'était finalement de construire notre propre télescope nous-mêmes et de les installer dans les meilleurs sites du monde. Donc là, nous sommes extrêmement heureux, évidemment, d'avoir pu financer ce deuxième télescope. Il faut dire que le premier TRAPPIST Sud, comme on l'appelle maintenant, fonctionne extrêmement bien, puisque après 5 ans, nous avons co-découvert à peu près 100 exoplanètes. Et nous faisons de très nombreuses observations de comètes, d'astéroïdes qui apportent un soutien énorme à nos observations et à celles de nos collègues américains un petit peu partout dans le monde, des observations avec les plus grands télescopes. Donc les télescopes TRAPPIST sont vraiment en train de fournir une quantité de données impressionnante pour un petit télescope de l'Université de Liège.
Alors si on le compare justement, et on va en parler évidemment aussi avec Gaël Cessateur dans une seconde, mais si on le compare avec Hubble qui est au centre théorique de notre émission d'aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison ou est-ce qu'il y a moyen de comparer quelque chose ?
Alors ce sont tous les deux des télescopes qui fonctionnent principalement dans le domaine visible, même si le Hubble aussi fonctionne dans l'infrarouge en partie. La grosse différence est donc le diamètre de TRAPPIST est de 60 cm. Le Hubble télescope a un diamètre de 2,4 mètres, donc il est beaucoup plus gros. Et évidemment, il n'y a aucune comparaison au niveau des budgets. Le Hubble Space Telescope, ce sont des milliards de dollars. Notre petit télescope n'a pas coûté du tout ça, évidemment. Et le Hubble télescope, la grande différence avec tous les autres télescopes, et c'est pourquoi on en parle tant et qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il est dans l'espace.
Alors, nous allons évidemment parler de Hubble, puisque, on le disait, il fête son 25e anniversaire dans l'espace. Gaël Cessateur, je rappelle, vous êtes post-doctorant de l'Institut d'aéronomie spatiale. Un mot d'abord sur Hubble et son histoire peut-être. La première chose, c'est que Hubble, c'est une collaboration entre la NASA et l'ESA, et ça c'est quand même très très important à rappeler.
Alors oui, c'est important à rappeler parce que c'est un peu pour montrer la synergie d'un peu des Américains et des Européens sur de tels grands projets. Après, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que l'idée d'envoyer un télescope spatial, c'est quelque chose qui date vraiment depuis très longtemps, parce que même quelque chose qui a été pensé même avant Spoutnik, donc une dizaine d'années avant Spoutnik, donc c'est quelque chose de, historiquement qui est très très important à rappeler. Et puis c'est sans compter aussi le fait que ça a mis beaucoup de temps. Il y a eu énormément de problèmes également d'ingénierie. Il y a eu également un gros problème avec le miroir primaire. Qui a eu un problème de fabrication sur miroir, qui a aussi produit, qui a aussi donné justement que les images étaient floues à un moment donné. Donc on s'est dit, ah bah mince, en 90, pas de bol, parce que les premières images étaient floues. Donc on s'est dit, bah finalement, ça a un peu servi à rien. Mais non, au contraire, parce que après des différentes études, on a pu essayer de corriger cet effet-là d'aberration sphérique du miroir en mettant un instrument qui était capable de corriger cet effet-là. Et à partir de là, on avait pu obtenir des magnifiques images comme on connaît tous.
Alors, Emmanuel Jehin, Hubble a été lancé, donc ce sera demain l'anniversaire, le 24 avril 1990 par Discovery. À l'époque, c'était quand même un événement extraordinaire.
En effet, extraordinaire, et je pense qu'on a tous en tête le Hubble avec la NASA, ce télescope avec la NASA, et le lien avec les navettes spatiales, qui ont été absolument nécessaires pour pouvoir mettre le Hubble dans l'espace. C'est un très gros télescope, enfin je vais dire, c'est 2,5 mètres de diamètre, c'est 11 tonnes, et seulement la navette spatiale a été capable de le mettre dans l'espace. Et l'idée de construire le Hubble date d'environ 1969, puis il a fallu donc résoudre tous les challenges pour pouvoir faire un télescope à mettre dans l'espace, et il y a eu en effet différents problèmes, et certains des problèmes, en plus donc de l'aberration optique qui était vraiment horrible, on va dire, très triste, c'est autre chose, ce sont les catastrophes des navettes spatiales. En 1986, Challenger explose, je pense que c'était en avril, et on devait envoyer le Hubble Space Telescope en octobre dans l'espace. Du coup, le lancement a été retardé de plusieurs années, puisque c'est seulement en 1990 qu'on aura pu envoyer le Hubble dans l'espace. Il a fallu aller corriger ce problème d'optique. Et alors là, on se souvient de cette mission incroyable des astronautes qui se sont entraînés pendant des mois et des mois pour aller installer un nouveau système optique dans le télescope pour lui rendre sa vue normale.
Alors c'est vrai que pendant, on va dire, les trois premières années, il y a eu quand même effectivement quelques soucis. Cette navette spatiale qu'on a dû envoyer pour corriger. Alors c'était quoi ? C'était un défaut de concavité dans le miroir, Gaël ?
Le miroir était trop plat en fait à la périphérie, ce qui fait que les rayons lumineux ne convergeaient pas correctement, ce qui fait qu'en fait le télescope était myope en fait, grosso modo.
Oui, mais alors évidemment c'est toujours facile à 25 ans de distance, mais enfin comment a-t-on pu envoyer un télescope qui avait un problème de myopie sur les bords. Donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'imaginer, on est face à une technologie qui est tellement précise, qui a fait l'objet de tellement d'études et tout, qu'on se dit mais enfin c'est fou que ce télescope ait été envoyé dans cet état-là.
Oui. Non. En fait, il y a juste un problème au niveau des marges de tolérance lors de la fabrication du miroir qui n'ont pas été suffisamment drastiques, on va dire, par rapport à l'entreprise américaine qui l'a fourni. Et on s'en est aperçu après, mais c'est vrai que c'est un peu incroyable, après coup,
hein, a posteriori, c'est vrai. Emmanuel Jehin, vous le disiez il y a un instant, et vous aussi, Gaël Sessateur, finalement, bien sûr, il y a des résultats extraordinaires permis par les observations de Hubble, encore aujourd'hui, évidemment, et on va parler des plus récentes, et des plus anciennes et des plus récentes. Mais ce qui a surtout joué, peut-être, et ce qui fait que ça reste dans notre mémoire collective, c'est cet impact de cette image de Hubble sur nous, enfin le commun des mortels, pas nécessairement spécialisé dans le domaine, le grand public. On a fait des découvertes à cet égard extraordinaires, hein, Emmanuel Jehin.
Oui, donc il y a aussi le rôle de la NASA qui a été prépondérant dans la publicité qu'elle a faite autour de son télescope spatial, que tout le monde adore finalement, parce que ce télescope, depuis 25 ans, nous envoie des images fantastiques de l'univers. Et tout le monde y est sensible, que ce soit les nébuleuses, les galaxies ou les planètes, avec un luxe de détails incroyable. Et donc en effet, ce télescope, avec, je pense, cette conquête spatiale et les plusieurs missions, parce qu'il y en a eu plusieurs, des missions des astronautes qui, au cours de ces 25 ans, n'ont cessé d'améliorer le télescope en rajoutant de nouvelles caméras plus performantes, parce qu'en 25 ans, évidemment, la technologie évolue énormément, ce qui fait que ce vieux télescope, entre guillemets, est toujours là dans l'espace et est un des observatoires qui fournit le plus de résultats scientifiques, tout observatoire confondu. C'est assez extraordinaire, et cela vient du fait, évidemment, qu'il est dans l'espace, qu'il s'affranchit donc des problèmes de la turbulence atmosphérique. Nos télescopes au sol, malheureusement, et ça c'est une différence avec TRAPPIST, on doit traverser l'épaisseur de notre atmosphère qui joue un peu le rôle d'un pare-brise sale qui dégrade nos images, tandis que le Hubble Space Telescope dans l'espace a des images, depuis qu'il a été corrigé, parfaitement nettes.
Alors, je m'aperçois que je n'ai pas précisé, Gaël Sessateur, votre spécialité. Votre spécialité, vous, ce sont les relations entre le Soleil et les atmosphères planétaires, c'est ça ?
Ah oui, donc ça concerne en fait la science, une nouvelle science qui s'appelle la météorologie de l'espace. Donc c'est voir un petit peu caractériser tout ce qui est les événements qui se produisent à la surface du Soleil et quels sont les impacts après qu'il va y avoir sur les atmosphères planétaires. Donc un des impacts les plus connus, finalement, c'est les aurores boréales. Effectivement, donc ça c'est quelque chose aussi que Hubble nous a permis d'observer, mais aussi sur d'autres planètes comme Jupiter ou Saturne, ou plus dernièrement en octobre 2011 dernier, il y avait aussi une magnifique aurore boréale qui s'était produite sur Uranus. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc bien sûr la suite serait éventuellement d'essayer de pouvoir observer des aurores boréales sur d'autres exoplanètes, mais bon, là ce sera après Hubble, ça.
Après Hubble, oui. Avec le successeur de Hubble, vous voulez dire ?
Malheureusement, non.
Non ?
Non,
ah,
malheureusement,
d'accord.
Non, parce que le successeur de Hubble, lui, il observera principalement dans l'infrarouge. Donc, on ne pourra pas observer ce type d'événements qui sont plutôt dans l'UV.
Oui, oui, parce qu'on dit que le successeur de Hubble, il sera lancé, même si Hubble fonctionne toujours bien et nous envoie toujours des observations intéressantes, mais que son successeur sera lancé en 2018, qui sera 100 fois plus puissant et qui sera en effet un télescope spatial à infrarouge, ce qui permettra quoi d'autre que Hubble aujourd'hui ?
Alors, les objectifs scientifiques du James Webb Space Telescope, en fait, c'est observer dans l'infrarouge, donc en fait, observer les objets les plus froids. Parce que certains objets froids, essayer d'observer également les galaxies les plus lointaines. Ce que ne permet pas finalement Hubble aujourd'hui, dans un sens, Hubble est quand même limité dans l'infrarouge, ce que pourra faire le nouveau télescope. Par contre, le gros problème de ce nouveau télescope, c'est qu'on n'observera pas dans l'UV. Et donc ça, dans mathématiques de recherche, par exemple, on observe essentiellement dans l'UV. C'est un peu problématique pour nous. Et par l'UV, c'est une des rares gammes spectrales où il faut absolument être dans l'espace, puisque l'atmosphère terrestre absorbe l'UV. Donc si on veut avoir des observations dans l'UV, il faut absolument aller dans l'espace.
Alors, je reviens à Hubble. On n'a pas rappelé d'ailleurs qu'il doit son nom à un des grands pionniers de l'astronomie, Emmanuel Jeur.
Oui, Edwin Hubble, qui était à l'origine un avocat, boxeur également, et puis qui s'est trouvé une passion pour l'astronomie et qui a fini par être un des plus grands astronomes de tous les temps, puisqu'il a découvert c'était dans les années 30, que les galaxies, ces sortes de nébuleuses qu'on peut observer dans le ciel avec des étoiles à l'intérieur, étaient en fait des îles de l'univers, en quelque sorte, des systèmes avec énormément d'étoiles, très très loin de nous, et qu'elles s'éloignaient toutes de nous. Et donc, c'était la preuve que notre univers était en expansion. Et donc, le Hubble est le premier à avoir mesuré l'expansion de l'univers. Et un des très grands résultats scientifiques du Hubble Space Telescope, donc qui tire son nom de Edwin Hubble, ça a été, et c'était un des objectifs principaux, de mesurer très précisément, justement, l'expansion de l'univers, et de là, en remontant en arrière, l'âge de notre univers.
C'est pour ça qu'on dit que Hubble, c'est une machine à remonter le temps. On voit ça souvent, hein, quand on lit des articles ou des livres sur Hubble, c'est ça qui revient tout le temps.
Oui, en fait, tout télescope est une machine à remonter le temps, parce qu'en réalité, quand vous observez quelque chose de lointain, comme il faut à la lumière un certain temps pour nous arriver, la lumière ne voyage pas de façon infinie, comme on pourrait le croire dans la vie de tous les jours. Non, la lumière dans l'espace, dans l'univers, elle est extrêmement lente. La lumière de l'étoile la plus proche, elle nous met 4 ans pour arriver. Elle met 8 minutes pour arriver du Soleil. Donc, quand vous regardez des astres lointains, en fait, vous voyez plus tôt dans l'univers. Donc, les télescopes sont des machines à remonter le temps, et le Hubble en est une des plus belles. Et on se souviendra peut-être de cette image tout à fait extraordinaire qui s'appelle le Hubble Deep Field, donc en fait le champ profond du Hubble. Il est resté pendant des heures et des heures sur une même petite zone du ciel dans la constellation de la Grande Ourse pour observer les galaxies les plus lointaines situées dans l'univers. Et toujours aujourd'hui, les grands télescopes sur Terre se tournent vers ces galaxies qui ont été découvertes par le Hubble Space Telescope pour arriver à les étudier plus en détail.
Alors, une question qui nous arrive par SMS. Comment détermine-t-on, alors je ne sais pas, peut-être Gaël Sessateur, comment détermine-t-on précisément l'âge de l'univers ?
Alors, Emmanuel vient juste de le préciser. En fait, en calculant en fait la vitesse d'expansion des galaxies entre elles, en fait, on peut remonter en remontant en arrière, et en fait est arrivé à un âge assez assez impressionnant, qui est de l'ordre de 13,8 milliards d'années. Mais en fait, c'est que par des observations, effectivement, qu'on peut remonter à ce chiffre, effectivement.
Et plus les appareillages et les technologies vont se préciser, vont devenir plus puissantes, plus on va peut-être remonter loin, évidemment.
Alors, en fait, il y a une certaine limite, au bout d'un moment, qu'on appelle... Parce qu'il y a une certaine limite, on ne peut pas remonter, en fait, plus tôt que 300 000 ans, puisqu'après, il y a une période, en fait, avec les instruments optiques, en fait, il y a une période... 300 000 ans après le début, c'est à partir du moment en fait où la lumière a été dissociée en fait de la matière, ce qui fait que c'est ce qu'on voit en fait, le fameux rayon, le fond diffus cosmologique, c'est la première lumière de l'univers. On peut pas, avec des observations optiques telles que Hubble, on peut pas remonter au-delà en fait.
Planck qui a été envoyé dans l'espace pour avoir cette première image de l'univers. On en a parlé beaucoup l'année passée parce que c'était les premiers photons libérés, justement, comme on vient de bien l'expliquer, libérés par le fait que l'univers devenait transparent 300 000 ans après le Big Bang. Donc l'âge de l'univers, on commence à bien le cerner. Évidemment, tout est très loin d'être résolu, notamment des derniers prix Nobel il y a 3 ans, je pense, a été récompensé par le fait qu'ils ont trouvé, cette équipe, que l'univers était en expansion, oui, mais en expansion accélérée. Et que cette expansion accélérée était due à une sorte d'énergie qu'on n'a toujours pas réussi exactement à
quantifier. Qu'on appelle la force mystérieuse, d'ailleurs.
Oui, la dark energy.
Oui, dark energy. Oui, donc une force mystérieuse qui constitue en fait quoi 70% de l'univers, ou plus de 90% de l'univers.
Alors c'est un peu compliqué l'histoire, parce qu'il y a la dark matter, l'énergie noire, mais là on parle de l'énergie sombre, en effet, qui est quelque chose qui a été libéré dans l'univers à un moment donné, et qui serait responsable de cette expansion accélérée de l'univers.
Alors
la seule manière en fait d'observer ça, c'est par les effets gravitationnels, en fait. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à essayer de savoir exactement ce que c'est.
Alors on l'a dit tout à l'heure, Hubble, machine à remonter le temps, qui a permis, on le disait aussi, de changer la façon dont l'humanité regarde et comprend l'univers, en tout cas jusqu'ici, et Hubble qui délivre des millions et des millions de clichés d'objets célestes depuis 25 ans, Emmanuel Jehin, qui ont permis, donc, on le disait, aux astronomes de calculer l'âge de l'univers, mais pas seulement. Et où vont tous ces clichés? Qui les utilise? Les astronomes du monde entier? Est-ce que c'est bien est-ce que c'est réservé à ceux qui ont participé, je dirais, au financement de Hubble?
Oui. Alors, en fait, la grande réussite du Hubble Space Telescope, c'est que tout le monde peut demander du temps d'observation sur le Hubble Space Telescope. Alors, évidemment, comme vous pouvez imaginer, la compétition est très rude. Il y a environ, chaque année, plus de 1000 propositions d'observation. Et sur ces 1000 propositions, il y en a 200 qui sont retenues, les 200 meilleurs, jugé par un panel de scientifiques très compétents. Et donc, ces images, après, sont disponibles pendant un certain temps pour les astronomes qui ont fait la demande d'observation, mais assez rapidement, elles sont disponibles pour tout le monde. Donc, en fait, tout le monde, maintenant, peut avoir accès à, je dirais, les 24 dernières années d'observation du Hubble Space Telescope pour aller fouiller dans l'archive de ces données, pour éventuellement ressortir de nouvelles publications scientifiques. Et comme je le disais tout à l'heure, cette ouverture totale fait que le Hubble Space Telescope est une réussite fantastique. D'abord, il fonctionne également très très bien. Il est dans l'espace, il fournit des données uniques, d'une précision vraiment inégalé avec les instruments qu'il a à bord. Il a 5 instruments à bord. Il ne sait pas tout faire, mais ce qu'il sait faire, il le fait extrêmement bien. Et grâce à ça, ça permet toujours aujourd'hui un nombre de publications très impressionnant, qui fait que c'est juste il y a 1 ou 2 ans que le Hubble Space Telescope est battu par le VLT. Mais le VLT, c'est 4 télescopes de 8 mètres de diamètre.
Oui, c'est pas la même technologie non plus. Mais à lui tout seul, il parvient à faire des choses exceptionnelles.
Absolument,
c'est ça.
Absolument.
Alors, la dernière fois qu'on a entretenu Hubble, c'était en 2009. C'était les astronautes, je crois, de la navette Atlantis. Ça veut dire que on doit faire ces entretiens pendant tous les combien, Gaël Cessateur? Est-ce que il est là depuis 25 ans, mais on peut imaginer qu'il va encore rester opérationnel pendant combien de temps, à votre avis?
Alors, en fait, il y a eu 5 missions pour pouvoir réparer, remplacer les instruments et remettre à jour, et remettre en état de marche Hubble. La dernière, effectivement, comme vous l'avez précisé, c'était en 2009. Donc, en fait, ça sera la dernière, parce que comme on n'a plus de navette spatiale, donc il n'y aura plus jamais de remise à jour et de remise à neuf de Hubble Space Telescope. En fait, pour le futur d'Hubble, ça va être directement lié avec la suite avec le futur télescope James Webb Telescope, en fait, parce que
oui, le James Webb Space Telescope, c'est le successeur de Hubble, celui, en 2018. Hein, on l'a dit tout
donc
à l'heure.
Donc ça dépendra effectivement avec la suite avec ce nouveau télescope, mais a priori, ce qu'ils considèrent, c'est que encore aujourd'hui, Hubble peut avoir une orbite encore à peu près stable, encore au moins 10 ans, ce qui fait qu'on peut s'attendre à encore environ 10 ans d'exploitation scientifique.
Le seul problème, c'est que comme on ne sait plus aller réparer, s'il y a un problème à bord des gyroscopes qui tombent en panne, c'est fini. Et ça peut être vraiment du jour au lendemain, parce que c'est quand même un vieil outil qui est dans l'espace et exposé, il faut bien s'en rendre compte, continuellement aux rayons très nocifs envoyés par le soleil et non filtrés par l'atmosphère. Et en fait, à l'origine, il avait été prévu que la navette aille rechercher le Hubble télescope et le redescende sur Terre pour le mettre dans un musée. Évidemment, ce ne sera plus possible.
Donc il va rester dans l'espace, il va mourir de sa belle mort.
En fait,
dans l'espace.
ils vont le désorbiter parce qu'il est vraiment très gros, c'est 11 tonnes, donc il n'est pas question de le laisser tomber n'importe où. Donc l'idée, je pense, c'est d'envoyer un satellite qui va aller s'arrimer au Hubble avec des fusées et le projeter dans l'atmosphère terrestre au-dessus d'un océan pour qu'il se consume comme une grosse étoile filante dans le ciel.
Il nous reste une toute petite minute et je voudrais revenir une seconde à Trappist, Emmanuel Jehin, parce que je pense que vous avez pu observé justement très récemment des petits astéroïdes qui sont en train de passer tout près de la Terre,
dont on parle
parfois. Ça donne quoi?
Oui, alors en fait, là récemment, nous sommes en train de travailler avec des télescopes d'ailleurs au Mauna Kea qui est situé à Hawaï, sur la grande île de Hawaï, à 4800 mètres d'altitude, un télescope de 4 mètres infrarouge qui observe depuis à peu près un mois des astéroïdes géocroiseurs. Donc ce sont des astéroïdes qui passent vraiment à proximité de la Terre. Ils peuvent passer entre la Lune et la Terre. Ce sont des cailloux qui font parfois 100 mètres à 1 km de diamètre. Ceux-là sont très très rares, ceux qui passent entre la Terre et la Lune de 1 km. Et donc avec Trappist et avec nos étudiants, en fait, nous avons un laboratoire qui consiste à l'université, donc à TP comme on dit, à observer avec Trappist, à ramener les données de ces géocroiseurs et à calculer le temps qu'ils mettent pour tourner sur eux-mêmes. Et donc c'est des observations qu'on a faites ici les semaines passées, et même il y a deux jours et cette nuit-ci encore quelques heures sur ces astéroïdes géocroiseurs pour aider la NASA à caractériser ces astéroïdes qui sont potentiellement dangereux en fait pour la Terre.
Pour la Terre. Alors on aura certainement l'occasion d'en reparler et de reparler avec vous d'un prochain projet. On peut citer son nom déjà, puisqu'on a cité Trappist, mais juste son nom.
Oui, on peut citer son nom. Donc c'est mon collègue Michael Gillon qui est le PI de ce super projet qui s'appelle Spéculoos, donc encore un nom bien belge.
Un nom bien belge, très bien. On en reparlera prochainement alors Emmanuel.
Exactement.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci aussi à Gaël Sessateur. Et dans un instant, nous retrouvons les informations.